Si je calcule bien, ça doit faire plus ou moins 38 fois, approximativement, que, à cette occasion, je vous parle des conciles de restauration des icônes et de la fête mise le dimanche de Carême, où on célèbre le triomphe de l'orthodoxie par, qui était la célébration solennelle de la vénération, du dogme, du concile, qui a montré la légitimité de la vénération des icônes. Cependant, l'épître et l'évangile que vous avez entendu ne correspondent pas à cette fête-là. Car avant que cette fête ne soit instaurée, ce dimanche-là était un dimanche où on vénérait particulièrement Moïse. C'est pour ça que dans l'épître et l'évangile, vous avez une allusion à Moïse. Puis la fête est venue, on a gardé l'épître et l'évangile, mais on a changé la destination de la fête tout en conservant la mémoire de Moïse. Et donc, concile fustigeant l'hérésie iconoclaste, l'hérésie qui consiste à ne pas vouloir vénérer les icônes sous prétexte d'idolâtrie. Si vous vénérez des icônes, vous êtes idolâtre. Non, répondent les pères du concile, lorsque nous vénérons une icône, c'est pas le bois et la peinture que nous vénérons et que nous adorons, c'est nous vénérons et adorons celui qui est représenté, qui est rendu présent par l'icône. Donc maintenant, voilà la définition. Je ferme la parenthèse en vous disant que c'est bien beau de commémorer la victoire de la vraie foi sur une hérésie, mais c'est l'histoire ancienne. 843, et ça fait presque 1200 ans que c'est passé, ça. Ça nous fait... On vit grâce à cela. Ça a imprimé la marque de l'Église. Grâce à ça, on sait qu'on ne fait pas erreur quand on vénérera les icônes. Mais c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, quelle est notre attitude maintenant qu'aujourd'hui que les icônes sont non seulement admises mais sont vénérées comme vous le savez, contre quelle hérésie nous devons encore nous opposer pour être dans la foi droite, dans l'orthodoxie? Est-ce qu'il n'y en a plus? C'est souhaitable, mais ça ne semble pas. Maintenant, il y a une autre, d'autres formes d'erreurs contre lesquelles il est important de s'opposer. Je ne vais pas vous en faire la liste, je ne suis pas père conciliaire, je ne suis pas mandaté pour faire une recension de toutes les hérésies qui peuvent traîner par-ci et par-là ou se généraliser. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que de l'importance d'avoir une foi droite, et que nous sommes dans un monde où justement ce n'est pas la foi droite n'est pas le critère global et général de notre monde. Vous en souffrez, nous en souffrons tous. Nous nous sentons souvent isolés dans notre foi et dans notre pratique parce que le monde ne partage pas cette foi. Et pourquoi et comment ça se manifeste? Ça se manifeste, je vous donne quelques exemples. Et évidemment, ma liste ne va pas être exhaustive, hélas d'ailleurs. Par exemple, dans l'inversion de la morale, nous sommes dans un monde où on ne veut pas, on ne veut pas, et souvent on ne peut pas parce qu'on ne sait pas, discerner la vérité et l'erreur. Je ne dis pas de juger les personnes, mais on ne sait pas qu'il y a une vérité. On prétend qu'il y a des vérités, que chacun fait sa vérité. Il en est ainsi de la morale, où aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement laïcisé, ou tellement athée, tellement sans Dieu, que l'on prétend que ce qui est mal aux yeux de Dieu, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans le sens de ce que Dieu a créé, c'est cela qu'on appelle bien. Je ne pense pas avoir besoin de vous donner d'exemples précis. On le sent même, par exemple, dans le vocabulaire. Je ne fais pas du tout de politique en vous disant ça ce matin, mais il est bien évident que toutes les républiques qui sont appelées républiques démocratiques avaient toutes les qualités sauf d'être démocratiques. C'est une inversion dans le domaine politique, qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, mais c'est pour vous donner, pour montrer comment ça se répand dans tous les secteurs, dans tous les niveaux de notre vie. Et nous sommes dans un monde opposé à l'orthodoxie, c'est-à-dire à la foi droite ou à la droite doxologie, la droite louange de Dieu, donc la reconnaissance de la foi. Parce que nous sommes en plein monde de falsification des faits. Non seulement on appelle bien ou on promulgue ce qui est mal, mais les faits eux-mêmes sont falsifiés de manière à nous désinformer. C'est le contraire même de la foi. Le monde dans lequel nous sommes, de la pensée unique, de l'obligation d'entrer dans cette pensée unique qui n'est encore qu'à ses débuts, enfin pas tout à fait à ses débuts, dans son adolescence, est aussi une manifestation de cette anti-vérité, si je puis dire. Vous voyez ça dans beaucoup de domaines, y compris dans la destruction de l'idéal familial, qui est le noyau sur lequel est basée l'expérimentation de notre foi, notre vie familiale étant normalement l'image de la vie de la Trinité, des trois personnes entre elles, et de relations entre la Trinité et nous les hommes. Nous en parlons souvent sous une forme ou sous une autre. Je ne m'étale pas non plus là-dessus, mais je fais encore dans ce monde la contestation, je le définis mal si vous voulez, mais la contestation de Dieu. On prétend que Dieu n'existe pas. On en fait de moins en moins la théorie, mais nous sommes dans un monde qui évince Dieu de fait, où la science, quelquefois la philosophie, mais essentiellement la science et le progrès technique sont devenus les remplaçants de Dieu, les outils que l'homme adopte pour s'auto-déifier. C'est encore le contraire de l'orientation, de la volonté de Dieu et de l'organisation du monde tel qu'il a voulu qu'il soit pour le but qu'il lui a assigné, c'est-à-dire la déification, l'union à lui, pour que tous, comme nous le disons à peu près chaque dimanche, que tous puissent devenir non pas des dieux, ce que beaucoup d'hommes voudraient, mais qu'ils puissent devenir un avec Dieu par la grâce. Nous sommes tous victimes et conscients du lavage, du véritable lavage de cerveau, non plus à plus ce terme-là maintenant, c'est un terme vieillot qui date d'il y a une trentaine d'années, mais du temps de l'URSS, mais nous sommes maintenant dans un monde où notre cerveau est lavé, rincé, essoré en permanence, et ça même dans nos instances éducatives les plus officielles. Je ne vous parle pas des autres religions qui sont auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés du fait du brassage des populations auxquelles nous assistons, mais aussi de toutes les mouvements de libre pensée ou autre loge de toute autre forme qui soit et qui imprime au monde une orientation qui est le contraire de ce que le Seigneur est venu nous annoncer et vers lequel il veut nous conduire. Les plus jeunes savent, et s'ils ne savent pas pourvu que ça dure, à quel point ils sont tentés dans les écoles même, par les pratiques magiques ou spiritistes, sans compter évidemment le mensonge de la drogue ou de la pornographie qui vient changer quelque chose dans notre vision du monde et l'orientation que nous pourrions avoir. Il y a aussi, mais avant de pleurer, avant de vous décourager, attendez que j'ai fini, hein, il y a aussi la tentation qui n'est pas simplement pour les jeunes, mais qui est pour nous aussi les plus vieux. La tentation de croire, parce que ça nous rassure d'une certaine manière, de croire que le Seigneur est silencieux ou que le Seigneur est impuissant et qu'il laisse faire. Et une partie, un aspect plus exactement, de la victoire avec la force de l'Esprit Saint contre l'hérésie consiste aussi à apprendre à voir que au-delà des apparences, le Seigneur est présent dans ce monde et qu'il œuvre. Nous, il nous paraît silencieux, mais il y a des moments dans nos vies personnelles ou dans la vie du monde où le Seigneur apparaît et pose des jalons, organise le monde et fait évoluer le monde de manière à en arriver au but qui lui a assigné, c'est-à-dire le salut des hommes. Et sombrer dans la tentation de croire que le Seigneur est silencieux ou nous abandonne peut nous conduire à une négation de Dieu. S'il en est ainsi, comment peut-il laisser les choses se faire? Ça peut nous amener à penser même que Dieu n'existe pas. Voilà la tentation suprême. Et c'est à cela que l'Église en tant que telle s'oppose non pas par un enseignement, mais par son expérience intime, que Dieu est présent et que nous pouvons le connaître, le voir, pas directement avec les yeux de la chair, mais tout de même qu'il y a cette relation vivante, effective et vitale avec lui. Dans les hérésies à combattre auxquelles nous sommes confrontés, il y a sûrement une non-reconnaissance du respect de l'autre, du respect des choses, du respect de Dieu, mais d'abord du respect les uns avec les autres. Et ça, ça se sent dans notre éducation, si vous voulez. Je ne dis pas l'éducation que vous, papa et maman, vous donnez à vos enfants, ce n'est pas vous qui êtes visé directement pour ça. Mais il y a quelque chose dans notre monde universel aujourd'hui qui montre ce non-respect-là, où tout le monde, sous prétexte d'égalité les uns avec les autres, tout le monde prétend avoir raison au pouvoir, par exemple, se faire la leçon. Et ce non-respect correspond en même temps ou génère une non-obéissance. Je ne dis pas une désobéissance, mais une absence d'esprit d'obéissance. C'est-à-dire, finalement, un refus d'humilité. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'humilité, par définition. Et s'il n'y a pas d'humilité, cela développe en nous un sens outrancier, je ne sais pas comment dire, un sens de la une manifestation, un développement de l'ego, de renfermement sur soi, ce qui ne peut pas provoquer des failles dans la structure des personnes et ne peut pas falsifier notre psychisme. Et ceci n'est pas valable, n'est pas seulement pour les jeunes, les adolescents ou les enfants qui seraient victimes, c'est pour nous tous qui sommes impliqués dans cette mouvance là. Et on peut continuer à développer si vous voulez, mais on risque d'y être encore ce soir. Mais voilà quelques exemples. Mais il y a un autre phénomène qui peut naître de cette constatation-là, c'est le pessimisme. De dire alors à quoi bon vivre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? On peut pas en sortir, alors c'est inéluctable. Le pessimisme est aussi... Est aussi une manifestation de l'hérésie ou des hérésies auxquelles nous sommes confrontés. Pessimisme voudrait dire l'absence de foi en l'action providentielle, effective et vivante de Dieu. Dieu dirige le monde, mais il ne le dirige pas. Il nous a promis de nous aider jusqu'à la fin du monde ou pas. Il nous a promis d'être présents ou pas. Qu'on le voit ou qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, il nous l'a promis. Si nous ne le sentons pas, la responsabilité, la faute, je ne sais pas comment je mets, vient certainement de nous. Mais on ne peut pas taxer le Seigneur de menteur, de nous avoir promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, et puis finalement de s'esquiver. Maintenant, nous serions dans la difficulté. Donc, le pessimisme doit être rejeté aussi au profit d'une foi plus grande. Il m'arrive de vous dire quelquefois que dans sa bonté, Dieu ne pénalise personne et qu'il n'est certainement pas plus difficile de faire son salut au XXIe siècle qu'il l'était au XIIe ou au XIIIe et à tous les autres. Chaque époque a ses charismes, chaque époque a ses défis, chaque époque a ses difficultés et ses limites et sa grâce. La nôtre n'y fait pas exception. On préférerait peut-être vivre à une autre époque qui nous semblerait peut-être plus facile, mais Dieu ne nous demande pas les mêmes choses. Il nous demande simplement d'être fidèle à notre vocation, d'être fidèle à la reconnaissance de sa présence et de sa vie en nous et dans le monde. La lutte, la victoire, le triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la foi droite, ou de la droite doxologie, de la droite louange, c'est pas uniquement la question de la reconnaissance des icônes, c'est de la reconnaissance de la vie de Dieu en nous et dans le monde. Dans le christianisme, dans l'orthodoxie, nous savons et nous expérimentons, ou nous pouvons expérimenter, malgré toutes les difficultés, qu'il y a une voie, une vérité, une vie. J'ai une voie, une vérité et une vie, pas deux, une. Et nous savons que cette voie, cette vérité, cette vie, c'est le Christ. Il y a une voie, c'est-à-dire la voie de la transfiguration, la voie du salut, la voie de l'acquisition du royaume des cieux, la voie de la participation à la vie éternelle, c'est-à-dire la voie à la participation intime à la vie divine, c'est le Christ. C'est en nous attachant au Christ, c'est en venant un avec le Christ, en devenant d'autres personnes à être l'unique Christ, que l'on peut en arriver à cette union à Dieu. Il y a une vérité, la vérité, avec un grand L et un grand V, c'est encore le Christ qui est à la vérité, c'est que le Christ est à la fois Dieu et à la fois homme, et que nous sommes le Christ, avec Jésus, bien sûr. Nous ne sommes pas des Christ comme ça, c'est pas parce que nous sommes assemblés que nous sommes le Christ, mais étant unis à Jésus par la communion, par la prière, par la foi, nous sommes unis à la vérité, et c'est cette vérité-là qui nous soude, qui nous greffe sur le corps et la vie de Jésus. Et comme Jésus est Dieu, nous sommes de cette manière-là déifiés. Et quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'apparente perversion du monde, quelles que soient les hérésies, comme je les appelais tout à l'heure, auxquelles nous sommes confrontés, il n'empêche que nous sommes un avec la vérité, c'est-à-dire avec le Christ. Il y a une vie, une vraie vie, dont nos vies à dimension humaine ne sont qu'une infime participation et ne sont que l'antichambre en quelque sorte de la vraie vie, que l'initiation à la vraie vie. La seule vie, c'est la vie divine qui nous est communiquée par le Christ. Et le triomphe de notre foi chrétienne, c'est cette adhésion volontaire, pas toujours facile, certes, mais tout de même réelle et à l'encontre, résolument marquée, avec la décision de nous opposer, non pas en faisant la guerre, mais en gardant notre camp à soi, qu'il y a que Dieu existe, qu'il vit parmi nous et que nous sommes un avec lui et tous ensemble avec lui. Il n'y a pas besoin de faire un concile pour cela. Les sept conciles de l'Église ont défini tout cela, mais il faut encore le matérialiser, mais le personnifier, si vous voulez, le personnaliser plus exactement, en entrant dans ce mystère et en adhérant à la voie, la vérité et la vie. Et c'est ça la définition de la vie chrétienne. Si bien que lorsque nous sommes confrontés à quelques difficultés que ce soit, et que dans un sursaut d'énergie du fond de notre cœur, nous adhérons par la foi et la prière à ce que nous démontre et ce à quoi nous initie l'Église, il faut savoir que le Seigneur, même si nous avons l'impression qu'il dort, qu'il nous laisse, qu'il nous laisse aller, il faut savoir qu'à ce moment-là, il vit en nous et que l'apparent silence qu'il garde est une manière de nous permettre de manifester nous-mêmes sa propre présence à travers nos personnes et à travers notre communauté ecclésiale, que ce soit une communauté locale comme la nôtre aujourd'hui, ou la communauté de toute l'Église, évidemment. Et vous voyez que cette vision, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de l'Église, cette vision est le contraire même du pessimisme. Elle est au contraire une vision prophétique mise à notre niveau, qui permet de témoigner dans le monde d'une réalité qui pour le monde est aujourd'hui invisible, qui est la réalité du monde transfiguré, du monde plus tard dans le royaume des cieux quand le Seigneur sera revenu en gloire pour son second avènement, mais que nous sommes dans notre vocation et de montrer et de démontrer au monde, pas simplement par des explications, mais par notre vie et notamment par notre charité. Rappelez-vous le témoignage perpétuel de l'Église, que c'est en nous aimant les uns les autres, pas d'un amour seulement affectif, mais d'un autre amour, d'un amour de communion et d'un amour de don de soi, que c'est par cet amour qu'on a les uns pour les autres que l'on reconnaît et que l'on manifeste la présence de Dieu dans le monde. Donc dans ce monde en grande partie sans Dieu, si vous voulez, en grande partie athée, c'est par la responsabilité de la présence et de la vie de Dieu dans ce monde nous incombe, c'est nous qui en sommes responsables et c'est à nous de montrer la vie de Dieu. Et voilà aujourd'hui ce que doit être et ce qu'est le triomphe de l'orthodoxie.